Bizarre, bizarre. Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que...
Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Comme c'est bizarre.
Mais oui, c'est bizarre, parfois la langue française est bizarre et Jean-Louis Chifflet a fait l'inventaire de ces bizarreries dans son dernier ouvrage « Oxymore, mon amour ». Bonjour Jean-Louis Chifflet.
Bonjour Pascal.
Éditeur, auteur, collectionneur de mots français de préférence et drogué. C'est bien ça, c'est écrit en dernière de couverture.
Oui, hein. Oui. Ah ben, on l'a écrit à l'insu de mon plein gré, c'est mon éditeur. Ceci étant, j'assume entièrement, c'est une drogue dure, mais que je supporte très très bien.
Il n'y a pas de sevrage possible,
Vu mon grand âge, ça fait un moment que je suis drogué, et plus ça va, plus ça continue.
Alors, vous avez été chercher dans la langue, pour ce dictionnaire, des bizarreries, parce que vous avez l'esprit tordu ou parce que la langue française est vraiment bizarre?
Alors les deux, mon général, ça c'est clair. J'ai l'esprit totalement tordu. D'ailleurs, ça justifie un petit peu le titre de ce livre, « Oxymore, mon amour », car mes proches m'ont souvent dit que, et j'assume aussi, que je suis un oxymore ambulant, c'est-à-dire tout et son contraire. Et donc je suis... et puis surtout, les bizarreries de la langue française me fascinent. Moi, vous savez, je suis un grammairien buissonnier. C'était un de vos confrères qui un jour m'avait appelé comme ça. Et j'étais très proche d'Alain Rey, dont je n'arrivais pas à la cheville au niveau grammaire. Mais Alain Rey, ça l'amusait beaucoup de savoir que je suis effectivement un grammairien buissonnier. C'est-à-dire que je pique les choses qui sont légères et drôles.
Mais alors, j'ai quand même l'impression, on ne va pas faire un débat posthume, mais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Alain Rey sur, par exemple, la définition du mot bizarre. Parce que dans ce livre, vous me dites, comme si vous écriviez que
pour moi. Si je m'adressais à vous personnellement.
À moi personnellement, vous me dites que bizarre vient du basque. Alors j'ai été vérifié dans le dictionnaire historique de la langue française et apparemment Alain Rey dit que c'est plutôt italien.
Alors je pense que c'est forcément Alain Rey qui a raison. Je ne sais pas où je suis allé pêcher. Il faut dire que j'ai un fait pour la côte basque. Je suis lyonnais et basque d'adoption, donc j'ai dû me laisser tenter. Je pense que c'est forcément Alain Rey qui a raison.
Il dit qu'il y a une hypothèse que ça vienne du basque, mais que par antériorité, c'est plutôt l'italien.
C'est à l'antériorité.
Tout à fait juste.
Pauvre Alain. Alain, si tu nous entends...
On parle encore de vous, de toi. Bizarre, beaux-arts, baiser. Alors ça, c'est une citation de Ionesco.
Oui.
Et vous me dites que c'est une paronomase.
Oui. Oui, c'est une paronomase. Alors, c'est l'explication de la paronomase, vous savez, toutes ces figures de style, et j'en ai répertorié beaucoup dans le bouquin. Et chaque fois, on en parle, mais pour les définir, alors la paronomase, je vais vous trouver la définition. La paronomase, c'est dans ce cas précis, ça vient du grec para et onoma qui veut dire à côté du nom. C'est-à-dire que ça se rapproche, on appelle ça aussi une allitération, autant que je me souvienne, et c'est pas très loin du calembour dont je parle beaucoup dans ce livre. Alors, Robert Desnos, par exemple, j'avais cité « Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs ». On joue avec la langue. Et effectivement, Ionesco, c'était la cantatrice chauve, « bizarre, beaux-arts, virgule, baiser ». Et moi, il y en a une que je cite souvent, c'est en lisant qu'on devient liseron, j'adore. C'est bien sûr notre maître à tous, Raymond Queneau.
Alors, vous auriez pu appeler votre livre paronomase, mais en effet, vous avez choisi oxymore, qui est donc une autre figure stylistique. Alors, on va repréciser ce que c'est, et puis vous allez nous dire pourquoi vous aimez à ce point cette figure de l'oxymore. C'est la marquise de Sévigné qui dit l'éloignement rapproche.
Oui, c'est vrai, mais pour la plus connue, à mon avis, c'est l'obscure clarté qui tombe des étoiles de Corneille. Il y a aussi, j'aime beaucoup celle de Camus, le silence assourdissant, c'est-à-dire que l'idée, c'est que on établit un lien entre deux mots qui ne, a priori ne sont pas faits pour. Et ça, c'est moi. Je suis désolé de revenir. Moi, je suis un oxymoron ambulant parce que je suis très distrait. Je fais un pas en avant, un pas en arrière, etc. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est un mot que j'ai toujours adoré. Et j'ai pensé que oxymore, mon amour, c'était un joli titre de le prendre pour le titre.
C'est une belle déclaration d'amour parce que c'est très poétique, même. Oui. Le mot même d'oxymore.
Oui.
Est-ce qu'il existe des oxymores dans d'autres langues que le français?
Alors, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Souvent, quand je parle avec des amis plutôt anglophiles ou anglais, ils sont fascinés. Bon, je vous dirais qu'en Angleterre, ça n'existe pas, par exemple. Ils sont fascinés par justement tous nos exercices de style, parce que ils en ont pas le quart de la moitié. Et je pense que l'oxymore ne fait pas partie. Enfin, en anglais, pourtant c'est une de mes langues préférées parce que je me suis beaucoup amusé avec l'anglais. Mais ça vient du latin, je crois, oxus aigu et moros sot fou. Voilà, c'est là qu'on en revient à moi. Hein. Ça établit une relation de contradiction entre deux mots qui dépendent l'un de l'autre. Alors j'en ai, par exemple, Boris Cyrulnik qui parle d'un merveilleux malheur, Molière qui parle d'un jeune vieillard dans le malade imaginaire. Il y a aussi Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue, elle se hâte avec lenteur. Donc ça, c'est des figures de style que faciles, parce qu'il y en a des tellement compliquées que tout le monde comprend.
Alors on pourrait croire que c'est un livre très sérieux, que cet oxymore, mon avoue, un livre de stylistique, mais non, c'est quand même un livre très joyeux.
Oui.
Et vous êtes, Jean-Loup Chifflet, quelqu'un qui aimait les jeux du langage et le non-sens. C'est votre patte, un peu.
C'est exactement ça. J'ai deux petites cordes à mon arc, c'est l'humour, a priori, et la langue. Et dans la langue, j'ai choisi tout ce qui était effectivement bizarre, comme le disait notre camarade Jouvet. Et voilà, donc ça me fascine.
Mais c'est un art, c'est un mode de vie, l'humour.
Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai écrit tellement de livres sur l'humour, on me dit, j'ai commis, j'ose pas dire que j'ai écrit, mais j'ai fait des encyclopédies, les mots d'humour, c'est un livre les mots d'humour, l'humour involontaire, ça c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est un livre que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est le bouquin des mots d'humour. L'humour c'est un art quand même. Les mots d'esprit, c'est un des seuls livres de Freud que j'ai un petit peu compris, c'est où il explique que les mots d'esprit, ça vient du cerveau, si vous voulez, c'est un réflexe. On a de l'humour ou on l'a pas. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé quand on parle de quelqu'un au sujet de l'humour, on dit plutôt plus facilement il n'a pas d'humour qu'il a de l'humour. Bon, voilà, moi
vous avez de l'humour.
J'ai de l'humour et surtout j'aime beaucoup publier puisque j'ai été longtemps éditeur et j'ai édité des humoristes contemporains. Il y en a que j'aime beaucoup. Particulièrement dont François Morel, dont je suis l'éditeur.
Jean-Loup Chifflet, on n'épuisera pas votre dictionnaire en une émission, mais on va le feuilleter sur un rocking chair. C'est le nouveau titre de Yara Lapidus, chanteuse franco-libanaise.
Plein de face, un sniff.
Yara Lapidus sur RFI avec ce titre que je livre à votre appréciation. Jean-Loup Chifflet, vous l'auteur de Sky My Husband qui fut un best-seller dans les années 80. Rocking chair, c'est un mot anglais ou français ?
C'est un mot anglais. C'est une chaise qui tourne. C'est
mais passé dans le langage.
Ah ben il y en a
là,
bien sûr. Alors ça c'est ce qu'on appelle le franglish. Hein. Le franglish, il y a beaucoup de mots. D'ailleurs j'en parle dans le livre. Beaucoup de mots qui sont je sais plus, mais il y en a tellement. J'en avais répertorié quelques-uns.
Le langage courant est plein de
mots.
Oui,
bien sûr. Il ne faut pas confondre le franglais et le franglish. C'est vrai que j'ai, avec mon Sky My Husband, je me suis beaucoup amusé avec le franglais. Mais le franglish, eau de Cologne et tous ces mots qui sont, j'en avais fait même un livre qui a été un beat total où j'avais répertorié tous les mots français utilisés plutôt chez les snobs anglais.
Alors vous nous livrez aujourd'hui un dictionnaire inattendu de la langue française avec Oxymore, mon amour, un livre dont le mot est le héros, dites-vous, mais qui commence par la lettre A, donc oui. Par une lettre. Et oui. Vous remarquez d'ailleurs que la langue française a finalement très peu de caractères, 26. C'est peu pour dire le monde, mais ça suffit, vous croyez ?
Je pense que ça suffit dans la mesure où chaque lettre est aménagée, si je puis dire. Parce que puisque vous me parlez de la lettre A, la lettre A, elle peut être coiffée d'un chapeau d'âne. Il y a des mots où elle en comporte beaucoup de lettres A. Et puis les écrivains, moi il y en a un écrivain que mon père aimait beaucoup et je lui rends hommage, c'est Pierre Benoît. Pierre Benoît, toutes les héroïnes, je crois qu'il y en a une bonne trentaine de l'écrivain Pierre Benoît commençaient par A. Et puis la lettre A, c'est une lettre sacrée. Ça, je crois que c'est Voltaire qui disait dans tous les pays du monde, parce que c'est la première.
Alors A, le premier des 26 caractères français quand l'arabe en a 28 ou les chinois ont 45 000 idéogrammes, c'est vous qui nous racontez
de leur nombre. C'est parce qu'ils sont très nombreux.
c'est votre livre, Oxymore, mon amour, qui a fait le décompte. Est-ce que c'est une langue simple pour vous, le français ? J'ai l'impression que tous ceux qui l'apprennent pensent le contraire.
Ah mais moi je pense que c'est une langue extrêmement compliquée et ça me fascine. Voltaire disait c'est une langue, le génie de la langue. Et moi j'ai eu la chance d'aller dans un certain nombre de pays étrangers, en particulier aux États-Unis, prêcher dans des alliances françaises. Et j'étais fasciné de voir les gens qui... Je me disais, mais comment ils vont faire pour apprendre toutes ces bizarreries, l'exception française. Moi, je dirais les exceptions françaises. Et les gens sont fascinés. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas. C'est ce que... ces écrivains étrangers qui ont choisi de s'installer en France, de Ionesco en passant par Cheng, tous ces gens qui ont abandonné, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont choisi la langue française pour devenir des grands écrivains.
Et des écrivains français. Alors, à ce propos, vous parlez de Cheng. Après la lettre A, il y a l'Académie française dans votre livre. Est-ce que pour vous, c'est un garant de la langue ou un frein à son évolution ?
Ça dépend si on parle maintenant. Je dirais que c'est un gadget.
Non,
je plaisante. Les gens qui me veulent du bien vu, moi, je reviens sur mon grand âge, m'ont dit, mais tu devrais, mais je n'ai pas question pour rire, on m'a proposé une fois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens formidables à l'Académie française. Ce qui est intéressant, justement, c'est un livre sur des anecdotes. L'Académie française, j'ai fait un article parce que il y a des choses amusantes à dire. Par exemple, que Voltaire disait, c'est un corps où l'on reçoit des gens titrés, des hommes en place, des prélats, des gens de robe, des médecins et même des gens de lettres, pour bien se montrer. Alors, il y a 40 membres. Moi, ce qui m'avait frappé...
On ne va pas lire toutes les citations de votre livre, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit des choses très, très méchantes sur l'Académie française.
Oui, parce qu'ils étaient... Alors, par exemple, Lamartine, lui, a été élu du premier tour, mais Balzac, ça m'a beaucoup étonné. Honoré de Balzac, soi-même, a écrit... Alors, j'ai cité les lettres, parce que chaque fois, il faut écrire. Monsieur le secrétaire perpétuel, je vous présente mes hommages, etc. Balzac, il a écrit je ne sais combien de lettres, et il s'est fait recaler. Et puis, il y a des gens qui ont de l'humour, comme Jean d'Ormesson, quand quand Marguerite Yourcenar a été élue, il y avait Toilette Homme, et puis il y avait Marguerite Yourcenar, parce qu'à l'époque, c'était la seule femme. Maintenant, il y en a plusieurs.
Oui, mais c'est quand même lui qui, Jean d'Ormesson, faut lui rendre grâce, a permis l'entrée de Marguerite Yourcenar sous la coupole. En tout cas, votre dictionnaire, Jean-Loup Chifflet, est aussi savant que celui de l'Académie.
Merci.
Et très hétéroclite, avec des mots très courts, et d'autres qui sont très longs. Alors, vous me voyez venir, quel
Je
est
vous
le
venir.
Mot le plus long de la langue française? Et ça, c'est un piège.
C'est un piège, mais j'ai votre fiche technique et je savais que vous alliez me piéger.
J'ai été un gentil camarade, je vous
Malgré
ai dit.
Votre nom qui, a priori, pourrait laisser croire que vous êtes d'une douceur et d'une gentillesse. Non, alors, bien sûr, ce n'est pas anticonstitutionnellement, contrairement à la légende, qui, comme vous le savez, avait 5 N, 5 T, 3 E, 3 1, etc., etc. Et il y a, bien évidemment, des mots scientifiques qui battent anticonstitutionnellement.
Alors, je vous écoute.
Alors, moi, je vous propose le bien connu. Alors, je vous propose un mot de 49 lettres. On est loin des 25 lettres d'anticonstitutionnellement. Eh bien, il s'agit en réalité de la vitamine B2, mais que vous pouvez, c'est en réalité le chlorure d'aminométhylpyrimidinyli dixocytidinimiditilcellatetchelcellum. Voilà, mais, je ne suis malheureusement pas germanophile. Il paraît qu'en Allemagne, le record est battu avec un mot de 63 lettres, dont je ne vous lirai pas en allemand, mais c'est la loi sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine.
Bon, je ne sais pas si je dois dire bravo, en tout cas c'était bien tenté. Le mot, en tout cas c'est du vocabulaire, c'est un sens, on le sait que trop bien, c'est aussi un son qui complique souvent la vie des locuteurs ou des apprenants, car il peut y avoir un même son pour plusieurs mots.
Ah oui.
Karine Nakache a consacré plusieurs livres à l'homophonie, et elle aussi aime s'amuser avec.
Le conte où tout de suite on percute sur les deux contes, le conte qu'on nous raconte et le conte 1, 2, 3. Et on oublie souvent qu'il y a aussi le conte, hein, qui est quand même tombé un peu en désuétude, mais le conte et sa comtesse. Et donc j'ai essayé de faire à chaque fois, c'était de partir du principe que ces gens n'avaient rien à faire ensemble, ce conte, si ce n'est à partager un son. Et puisqu'ils partagent ce son, essayons de comprendre ce que ça leur fait, en fait. C'est-à-dire, nous, on sait ce que ça nous fait. Ça nous fait grincer des dents. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'imaginer les mots. Eux, qu'est-ce que ça leur fait le plus souvent? Si c'était des personnages, qu'est-ce qu'ils auraient à se dire? Est-ce qu'ils seraient d'accord pour partager le même son et ne pas avoir le même sens? Ou est-ce qu'il y en a qui voudraient avoir le dernier mot?
Le conte et tous ses contes, un exemple d'homophonie qui se complique encore dans votre dico, Jean-Loup Chifflet, car vous dégotez aussi l'homéothéleute, l'homographe et l'homographe hétérophone.
Oui, c'est ça. Alors moi j'ai fait des livres, j'en ai fait un que j'ai édité un livre d'un ami qui n'est malheureusement plus là, Thierry Leguet, qui m'a fait un livre que j'aime bien, qui s'appelle « Les poules du couvent couve ». Là on est dans un cas d'homophonie, effectivement, ça s'écrit pareil, etc. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me passionne.
En tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est de s'apercevoir que finalement, tout Français parle avec des figures de style sans le savoir. Il y a eu la célèbre anaphore de François Hollande, moi, président.
Oui.
Mais quand on dit bon gré, mal gré, c'est aussi une figure de style.
Oui,
c'est une asyndète.
Oui, asyndète. Oui, l'asyndète, j'ai appris récemment. J'avais oublié que ça s'appelait l'asyndète. Mais c'est vrai que dans les figures de style, moi, j'en ai mes préférées. C'est quand même l'anaphore, effectivement, la plus connue, parce que Hollande l'a récupéré, a récupéré à De Gaulle aussi, et l'a récupéré aussi à Rome, unique objet de mon ressentiment. Mais il y en a, est-ce que je peux vous en citer une qui est une de mes préférées, qui n'est pas très connue? C'est très difficile, la définition est toujours difficile, mais quand je vais vous donner un exemple, c'est le fameux zeugme. Alors zeugme ou zeugma, c'est essayer de joindre à un mot deux compliments disparates. Alors le plus connu, c'est quand même Victor Hugo, qui avait dit vêtu de probité et de lien propre. On voit le lien. Mais j'ai fait un livre qui s'appelait « Il baissa sa culotte et dans mon estime », là on comprend déjà mieux ce que c'est, mais c'est surtout le camarade des proches qui, à mon avis, a fait le zeugme le plus drôle. Et les enfants sont peut-être pas encore couchés, mais après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit prince reprit ses esprits et une banane. Voilà, c'est un quintuple zeugme, et je trouve que c'est très joli.
Il y a aussi, sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours d'Apollinaire, qui est un zeugme.
Plus haut de gamme.
Alors, si on parle des figures de style qu'on utilise tous les jours, il y a aussi Jojo ou Jeannette. Quand on utilise des diminutifs, on fait de l'hypocorisme.
Ou le hypocorisme. Oui, c'est intéressant de savoir que je... Oui, c'est des noms absolument incroyables parce que je les ai pas tous mis, mais si vous avez la métonymie, vous avez l'ellipse, vous avez l'épanalepse, vous avez
l'anadiplose. Il y a l'aptonyme aussi.
Oui, alors l'aptonyme, ça c'est marrant, ça.
Ça c'est marrant. Monsieur Bonichon.
Oui, j'ai bien connu.
qui est un spécialiste du cancer du sein.
Et qui est... Oui, mais absolument.
Existe,
vous avez
monsieur
Robinet. Qui est plombier, etc. J'en ai vu un récemment, très vite, là. C'est pas un aptonyme, mais j'ai vu une tombe, Monsieur l'Allemand mort pour la France, quand même, c'est quand même super. J'ai vu ça au Père Lachaise.
Des bizarreries, vous dis-je, vous avez aussi quelques lignes sur l'espéranto dans ce dictionnaire Oxymore Mon Amour, je sens que vous n'en êtes pas très adepte, et puis aussi sur l'europanto, alors la découverte, mais ça existe, écoutez plutôt.
Des meine life nel medio van der way. Finde myself in aine bosco obscuro, de justa via nescente donde stei, dicere vat ich felt est mucho duro, porque van de foresta raccontante der terrible orrore non enduro, so close vas under morte semblante. Aber por sei der bene dat ich finde, shall ich descrive vat vas ich voyante, hau zum ingehen raconte no potest, perché op ein momento slipingante correcta meine via hadde geloste.
Exemple d'europanto, Jean-Louis Chifflet, c'est une langue ou c'est une plaisanterie?
C'était devenu une langue. Moi, j'ai même rencontré à l'époque Diego Marani, qui était un Italien plein d'humour, qui était un traducteur. On n'a pas peut-être tout saisi là, mais c'est, en gros, il mélange l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, le flamand, et parce que il pense que c'est une langue que tout Européen pourrait comprendre. Je suis pas sûr que...
Moi non plus.
Ouais, au restaurant, il dit, par exemple, il arrive et il dit, gut espera, what ordonner? Voilà. Qu'est-ce que je vais choisir? Oui, vous avez compris, ça.
À peu près. Ouais. En tout cas, il y a dans ce dictionnaire, donc, des langues qui existent plus ou moins, des mots qui existent et d'autres qui devraient exister. Par exemple, vous proposez escapaghetti ou tartabou, qui sont des mots qui n'existent pas et que vous souhaiteriez introduire dans la langue. Alors, escapaghetti, c'est le spaghetti fuyant qui passe à travers la fourchette. Et puis, tartabou, c'est
le dernier bout de tarte. Souvenez-vous, vous ai vu un jour, on n'ose pas le prendre, il ne reste plus qu'un. Alors ça, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Le dictionnaire des mots qui devraient exister.
Mais alors du coup, est-ce qu'il faudrait simplifier ou complexifier la langue, Jean-Louis Chifflet?
Écoutez, moi je vais vous dire simplifier. Les Français sont contre la simplification pour une raison simple, c'est qu'ils sont... Il y a, chaque fois qu'on a essayé de faire une réforme, il y en a eu 10, 15, la dernière en 90, elle a accouché. Les Français sont très contents de leur langue comme ça, elle est très compliquée, ils adorent ça. On a accouché sur peut-être une suppression éventuelle de l'accent circonflexe. Oui, et je crois que ça n'ira jamais plus loin.
Parce qu'on aime être compliqué.
Jean-Louis
Chifflet, dans la série Compliqué et Bizarrerie, Lucie Bouteloup, ici présente, est une de vos adeptes et tous les mercredis, elle rend hommage à une expression populaire, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Est-ce
Bonjour,
que tout Jean-Louis est Chifflet. Clair dans ce que vous avez entendu aujourd'hui? Un acolyte, paronomase, aposiopèse, est-ce que c'est nickel?
Oulala, à vrai dire, malgré toutes vos explications, je pédale un peu dans la choucroute.
Oh, mot alsacien.
Drôle de pratique, me direz-vous. Quoique par ces temps frisqués, ça peut réchauffer. Pédaler dans la choucroute, donc. Marcel Ratafia me dit tout sur l'origine de cette expression que j'affectionne particulièrement. Mais avant, la parole aux ados, toujours très inspirée.
Pédaler.
pédaler dans la choucroute, ça veut dire faire quelque chose de compliqué.
Tu pédales normalement avec un vélo sur une route, sur du plat. Et je vois pas comment tu pourrais pédaler dans une choucroute, ça c'est un peu bizarre.
À mon avis, c'est par exemple ne pas faire un devoir, vraiment avoir une galère et ne pas avancer.
Pédaler dans la choucroute, c'est quand tu t'en mêles. Et pédaler dans le vide, c'est quand tu n'avances pas.
Je pense que tu confonds tout parce que souvent on se dit on s'emmêle les pédales.
C'est comme si on avait un obstacle devant nous et qu'on ne pouvait pas passer devant, comme par exemple un examen. Quand on pédale dans la choucroute, c'est-à-dire qu'on galère vraiment à passer l'examen.
Pour moi, ça veut dire ruminer sur des choses qui n'ont pas forcément de sens et qui sont défaites.
La choucroute, c'est quand même assez mou, on a l'impression qu'on peut s'engloutir à l'intérieur. Des fois, il y a des petits morceaux, c'est assez dégoûtant. C'est comme de la purée, on peut pas marcher dans la purée.
Alors Marcel Ratafia, pédaler dans la choucroute, là encore, les enfants voient tout de suite très bien ce que ça veut dire comme expression. Quand on pédale dans la choucroute, on a du mal à s'en sortir, on galère quoi.
Ouais.
Mais pourquoi diable est-ce qu'on pédalerait dans la choucroute? Elle vient d'où cette expression?
Alors ça vient tout simplement du vocabulaire des cyclistes, puisque... Il faut se rappeler que la voiture balai du Tour de France,
qui est donc la dernière voiture, celle qui clôt la course et qui ramasse les cyclistes fatigués
en
déroute,
et ben en fait cette voiture balai était un support publicitaire dès les années 1900 et vers 1905. Il y avait une publicité pour une célèbre marque de choucroute dont on a oublié le nom. Et en fait, ceux qui arrivaient en queue de peloton au niveau de la voiture balai, qu'est-ce qu'ils voyaient? C'était une pub pour la choucroute, donc l'idée de pédaler dans la choucroute.
Donc l'expression a été utilisée dans le sport, et puis ça s'est un petit peu élargi à d'autres domaines. Finalement, on a utilisé l'expression pour décrire une situation dont on n'arrivait pas à sortir, comme un chantier qui n'avancerait pas.
Par exemple, qui pourrait pédaler dans la choucroute, ou une réunion... Ou même, ça pourrait même être un dîner un peu embarrassant où la discussion pédalerait dans la choucroute.
Quand on est en panne d'inspiration, on pédale dans la choucroute.
Ouais.
On n'arrive pas à s'en sortir, quoi. On patine, ouais. En fait.
On patine, on pédale dans le yaourt.
On pédale dans la semoule.
Dans la purée, dans la cancoyotte.
Dans la cancoyotte, tout à fait. Dans le couscous.
Dans le couscous.
Enfin, ouais. On peut pédaler dans tout ce qu'on veut.
Dans
tout...
le quinoa. Ouais. On peut en lancer, hein. Dans les graines de chia.
L'idée, c'est qu'on s'embourbe, quoi, en fait.
Oui, oui.
Au Portugal, on dit qu'on patine dans la boue.
Dans la boue.
Eh bien, merci Marcel Ratafia pour vos explications. Je rappelle que vous venez de faire paraître 150 drôles d'expressions de la cuisine avec Yves Candebord et que c'est édité au Robert. À très bientôt pour une autre expression.
Merci.
Merci à toutes les deux. Jean-Louis Chifflet, ça vous inspire quoi, pédaler dans la choucroute?
Je me dis que vous avez bien fait d'en parler maintenant, parce qu'en plein été, vous auriez peut-être été un peu ridicule, mais donc c'est une expression de saison.
C'est une expression de saison. J'ai découvert à propos de vélo dans votre livre Oxymore Mon Amour qu'on va à vélo,
ah oui.
Mais en soucoupe volante.
Ah oui, bon, d'accord, on va. Mais c'est vrai, ça m'énerve toujours, parce que à vélo, parce que c'est découvert. Dès que c'est couvert, on dit en voiture, à vélo.
Voilà donc l'explication. Merci beaucoup Jean-Louis Chifflet. Oxymore Mon Amour est publié aux éditions Retrouvé. 400 pages de bizarrerie française. Et vous publiez aussi un autre livre chez Bouquin qui s'appelle Le Bouquin des mots d'esprit. 8000 mots d'esprit recensés pour faire croire à tout le monde dans les dîners que vous en avez. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo. Laurie Plisson à la réalisation. À demain.